Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série, notre deuxième série, concernant l'importance de la rédemption. Et nous aurons trois petites méditations. La première, c'est la plénitude de l'esprit. La deuxième, les trois principes de la plénitude. Et troisièmement, pourquoi le parler en langue. Nous sommes donc à l'étude numéro 35. Notre première étude, c'est donc la plénitude de l'esprit. Tous les enfants de Dieu, on peut dire vraiment tous, ont le Saint-Esprit. Mais tous n'ont pas la plénitude de l'Esprit-Saint. On suppose trop souvent que cette plénitude est un luxe spirituel réservé à de rares privilégiés. Pourtant, Dieu, il veut que nous soyons tous remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, expérience que saint Paul identifie avec la connaissance de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 18, ou même jusqu'au verset 19. Peu de chrétiens semblent comprendre cela. Beaucoup se contentent d'une vie spirituelle médiocre ou pauvre. Mais aux yeux de Dieu, la plénitude de l'esprit n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Par la nouvelle naissance, nous entrons dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi rester simplement à la frontière? Ce n'est pas obligatoire. Dieu nous a sauvés de l'enfer. Ce n'est pas pour nous abandonner ensuite au bord de la route. Dieu étant infini, la vie éternelle a nécessairement des possibilités sans bornes. Pourquoi limiter son esprit par notre incrédulité? Visez haut, chers auditeurs. Dieu fait une distinction entre le chrétien spirituel et le chrétien qui est charnel. Le chrétien charnel est comme un bébé encore au biberon. Ses sens spirituels sont si peu développés qu'il ne peut sonder les profondeurs de Dieu. Le bébé spirituel est à l'ABC, alors que l'homme fait, le chrétien adulte, homme ou femme, peut discerner entre le bien et le mal et il est capable d'instruire d'autres personnes concernant les choses de Dieu. Dans Romains, chapitre 8, versets 5 à 7, Paul parle de ceux qui s'affectionnent aux choses de Dieu et de ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Ainsi, le chrétien spirituel est l'homme ou la femme, je ajoute toujours la femme parce que dans la Bible, il est parlé de l'homme, ça veut dire homme et femme, et je ne voudrais pas que certains se trouvent un peu gênés ou attristés. Donc j'ajoute et je répète, ainsi le chrétien spirituel est l'homme et la femme qui abandonne à Dieu tous ses droits. Il croit, elle croit en Jésus-Christ pour toutes choses. Il ou elle fonce de tout son cœur pour faire sa volonté. Dieu veut donc remplir ou posséder un tel homme ou femme. il utilise cela au maximum. En effet, le chrétien charnel a l'Esprit de Dieu en lui et avec lui. Sinon, il ne serait pas enfant de Dieu, mais il se prive de la plénitude de l'Esprit Saint. Dans les Actes des Apôtres, on voit que les disciples sont souvent remplis du Saint-Esprit et que cette plénitude a surtout pour but de rendre efficace leur témoignage en faveur du Christ. Ainsi, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes sont convaincues et converties. Au chapitre 4, verset 8, l'apôtre Pierre n'a pas peur devant les autorités responsables de la crucifixion de Jésus, de dénoncer également leurs crimes. Car au verset 31, je dis bien du chapitre 4 au verset, donc Actes des Apôtres, vous l'avez compris, au verset 31 du chapitre 4, en sortant de prison, il annonce la parole de Dieu avec assurance, et le mot grec veut dire avec audace. Au chapitre 11, verset 24, nous lisons que Barnabas, le coéquipier de Paul, est plein d'Esprit Saint. Au chapitre 13, verset 9, Paul dénonce le sorcier Elimas et enchaîne le démon. Dans tous ces cas, nous voyons que l'Esprit Saint, par sa plénitude, apportait à la parole et au témoignage des apôtres, apportait donc l'autorité de Dieu. Jésus dit que le Saint-Esprit, en venant parmi les croyants, aurait comme but de faire connaître le Christ, selon Saint Jean, chapitre 15, versets 26 et 27, ainsi que le chapitre 16, versets 13 et 15. Avec une grande puissance, les apôtres ont pu rendre témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. En même temps, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Tout était comme entre eux, vraiment, ils avaient tout en commun entre eux. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Jésus dit que le monde serait convaincu par l'amour fraternel des disciples, car c'est par la présence de Jésus-Christ au milieu de nous que l'Esprit-Saint rend témoignage au monde. Dans certains milieux, on ne parle guère du Saint-Esprit, et dans d'autres, on en parle tout le temps, mais en limitant son action à une ou deux manifestations particulières. Les deux erreurs sont aussi tristes l'une que l'autre. Comme la lumière blanche du soleil s'épanouit en un spectre de 7 couleurs, ainsi le Saint-Esprit, quand il nous remplit, se manifeste par 7 opérations simultanées dans notre vie avec une richesse de variations aussi grande que celle que nous remarquons dans la nature. L'Esprit de Dieu n'aime pas qu'on le réduise à une formule. Il est Dieu. Les 7 aspects de la plénitude sont les suivants. Premièrement, il témoigne. D'abord, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 16. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 10. De là vient notre certitude. Mais son témoignage est basé sur la sainte parole de Dieu qu'il a créée précisément dans ce but. Donc, l'Esprit Saint, la sainte parole et le Fils de Dieu sont indissociables. Ensuite, il témoigne du Christ au travers de nous. Saint Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Il signe notre témoignage avec une autorité divine que les hommes savent reconnaître. Deuxièmement, le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'Esprit, selon Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus, résumé dans ces 9 mots qui sont les suivants. Amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces qualités sont en somme les aspects de l'amour. Un homme non rempli de l'amour de Jésus-Christ n'est pas rempli de l'Esprit Saint, quelles que soient ses prétentions. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous aimons Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes, et notre frère, notre sœur, comme Christ nous a aimés. Troisièmement, l'Esprit Saint crée la communion, selon 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Donc, le mot grec original, cela signifie partage. L'Esprit Saint, en nous remplissant, crée une communion intense entre Dieu et nous. C'est ça le partage. Nous partageons tout avec Dieu. Il est à moi et je suis à lui. Nous avons en commun tout ce que représente Christ. Il crée ensuite une communion profonde entre moi et mes frères et sœurs. Nous partageons la vie de Christ ensemble, comme dans Actes chapitre 4 verset 32. Jamais il ne divise les enfants de Dieu. Au contraire, il les unit. Tout ce qui déchire le corps de Christ ne vient pas de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 3 et 4. Quatrièmement, l'Esprit Saint, il intercède. Il prie pour nous. Il prie pour nous avec des soupirs inexprimables, selon Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. Il est donc notre deuxième avocat. Notez Saint Jean, chapitre 14, verset 16. Le consolateur serait mieux traduit par avocat dans Saint Jean, chapitre 14, verset 16. Le mot grec est le même dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 1, où Jésus est aussi appelé notre avocat. Le Saint-Esprit est à la fois le consolateur et l'avocat. Il est important de noter ces citations bibliques, car je ne voudrais pas que vous pensiez que je raconte des choses de mon cru ou de mes propres idées. Non, 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 je ne ferai jamais cela. Il inspire donc en même temps notre intercession, et cela en faveur des autres. La plénitude de l'Esprit Saint s'exprime donc en une vie de prière intense. Cinquièmement, le Saint-Esprit nous enseigne. Le but de tout son enseignement est de révéler le Seigneur Jésus-Christ et au travers de lui, le Père. Il se sert surtout de la Sainte Parole de Dieu pour le faire. La Sainte Bible devient pour nous un livre lumineux. Sixièmement, le Saint-Esprit nous dirige. Oh oui, comme Israël a été conduit dans le désert par la nuée de la présence de Dieu, ainsi nous devenons sensibles aux directives de l'Esprit-Saint quand il nous remplit. Et pour nous guider, il se sert de trois moyens. A. Les Saintes Écritures. Si Dieu dit clairement une certaine chose dans la Bible, nous n'avons pas à chercher plus loin. B. Les circonstances. Quant aux détails, Dieu se sert souvent des circonstances pour préciser sa volonté dans une situation particulière. C. Sa voix dans notre conscience, une conviction intérieure. Dans Acte 10, nous voyons que Dieu se servit de ces trois moyens pour diriger l'apôtre Pierre vers la maison de Corneille. Quelle bénédiction pour le monde! Et septièmement, le Saint-Esprit nous qualifie par des dons pour le service de Dieu. Le Saint-Esprit veut surtout faire connaître le Christ au monde entier. Dans ce but, il agit de manière à révéler Jésus au travers de nous. Lui seul sait quelle est pour chacun de nous la meilleure façon de servir Dieu. Dieu ne fabrique pas les hommes en série. Tu es une âme unique qui est créée par lui et pour lui. Il a un trésor de grâce unique à te confier que lui seul peut te communiquer. Aucun de nous ne peut servir Dieu par ses propres moyens. La chair ne peut faire la volonté de Dieu, mais elle peut certainement tout gâcher. Moïse lui-même a dû passer 40 jours d'humiliation dans le désert pour apprendre tout cela. Mais quand il est revenu de sa rencontre avec Dieu pour affronter le dictateur du monde avec rien d'autre qu'un vieux bâton à la main et la sainte parole de Dieu dans son cœur, quel résultat! Demande donc à Dieu de te qualifier pour son service. La Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. » Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Analysons de plus près ce commandement. Pourquoi les hommes cherchent-ils dans l'alcool, dans la drogue et dans d'autres choses un stimulant? C'est parce qu'il leur manque le stimulant du Saint-Esprit. Les stimulants artificiels du monde nous laissent dans un état pire qu'auparavant. Le seul stimulant qui permet à l'homme de faire la volonté de Dieu tout en renouvelant ses forces et en clarifiant sa vision, c'est l'Esprit de Dieu. Dans le monde chrétien, on a souvent tendance à remplacer l'action de l'Esprit de Dieu par des stimulants artificiels. On s'appuie sur l'argent ou sur une grande organisation ou sur des expériences particulières ou sur un homme plutôt que sur Dieu. Toute chose autre que Dieu nous laisse finalement désemparés et confus. Le croyant a pourtant besoin d'un stimulant. En temps de guerre, on donne souvent aux soldats un stimulant pour lui permettre de faire l'exploit qu'il n'arriverait pas à faire de lui-même. Le chrétien, pour vivre face au monde qui crucifia son maître, a besoin d'un courage et d'une joie surnaturelle. Le Saint-Esprit nous donne un courage qui étonne. Il nous donne une joie débordante. Mais regardons de plus près ce verset. Le sens du grec original ne ressort pas entièrement dans la traduction. Il n'existe pas de forme grammaticale en langue française pour, par exemple, traduire l'impératif progressif grec. Il faudrait traduire la phrase ainsi. Remplissez-vous sans cesse. Soyez toujours en train d'être rempli de l'Esprit Saint. C'est donc une action continue, perpétuelle, progressive, et non pas une action simple, définitive, une fois pour toutes. Il existe en grec un impératif simple, mais l'apôtre Paul ne l'emploie pas dans ce contexte. Il emploie la forme progressive. Et cela est très significatif. Le Saint-Esprit nous communique par là une vérité très importante sur lui-même. On ne reçoit pas la plénitude du Saint-Esprit une fois pour toutes. Ce n'est pas une action définitive. On ne peut pas s'afficher avec l'étiquette « définitivement rempli ». Par contre, la nouvelle naissance est un acte irréversible de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je le suis pour toujours. Ça devrait être ainsi. Bien sûr, il y a des accidents au cours de la route. Je ne peux pas être aujourd'hui un enfant de Dieu et demain autre chose et le surlendemain de nouveau un enfant de Dieu. Alors que la plénitude d'aujourd'hui ne garantit en rien celle de demain. On peut la perdre, mais heureusement, on peut aussi la retrouver, gloire à Dieu. Nous ne connaîtrons la plénitude de l'Esprit que dans la mesure où nous laisserons Dieu passer au travers de nous. L'âme de l'homme n'est pas une bouteille. Elle ressemble plutôt à un tuyau ou à un fil électrique ou, mieux encore, au lit d'un torrent ou à une rivière. La rivière est pleine d'eau uniquement si elle remplit à chaque instant les deux conditions suivantes. Elle doit recevoir sans cesse l'eau de la montagne et elle doit sans cesse la laisser couler plus bas dans la vallée. Nous ne pouvons être remplis du Saint-Esprit que si nous recevons à chaque instant cette plénitude de Dieu et si nous la communiquons fidèlement au monde autour de nous. Nous sommes alors une rivière et non pas un étang. Nous sommes un canal et non pas une bouteille. En d'autres termes, nous ne pouvons pas obtenir la plénitude de l'Esprit Saint simplement pour notre satisfaction personnelle. Elle nous est donnée pour faire la volonté de Dieu. La seule satisfaction réelle de l'homme consiste à faire la volonté de Dieu. Lorsque Dieu trouve un homme qui l'aime au point de vivre pour lui, il lui ouvre son cœur et fait de cet homme le véhicule de son amour. Toute l'énergie, toute l'intelligence, toute la générosité de Dieu lui sont accessibles afin d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire connaître le Christ au monde. L'arbre qui obéit aux lois de la nature est à la fois une richesse pour la terre et un objet de beauté qui satisfait l'esprit de l'homme. Ainsi, l'homme qui vit selon les lois de Dieu trouve pour lui-même une satisfaction profonde, tout en apportant à son entourage ce que Jésus appelle la lumière du monde et le sel de la terre, selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. La plus grande satisfaction que puisse avoir un enfant de Dieu, c'est de pouvoir amener quelqu'un d'autre qui n'est pas encore sauvé, à Dieu. Et Dieu lui-même devient la satisfaction d'un tel homme, d'une telle femme. Dieu est amour, et la Sainte Bible dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme trouve donc le comble de son expérience quand il aime, ou plutôt quand l'Esprit Saint de Dieu commence à aimer au travers de lui. Le cœur de l'homme sans Dieu est vide. Le mal qu'il éprouve alors le pousse à chercher partout une raison d'être. Mais lorsque Dieu remplit ce vide, l'homme ou la femme trouve le véritable sens de son existence en celui qui en est la source. Sa personnalité est inondée et transformée par l'Esprit de Dieu. Il découvre l'amour. La configuration de la terre sainte illustre à merveille le principe de la plénitude. Elle contient deux grands lacs, le lac de Galilée et la mer morte. Nous avons ici une image frappante, un symbolisme spirituel. Les deux lacs reçoivent la même eau qui découle de la plus haute montagne du pays, qui est l'Hermon. Pourtant, ils sont aussi différents que la vie et la mort. Le lac de Galilée, près des neiges du mont Hermon, reçoit ses eaux directement de la source et donne ainsi tout ce qu'il a reçu. Les eaux vives passent sans cesse au travers du lac pour couler ensuite dans la basse vallée du Jourdain. Elles sont fraîches et elles sont remplies de poissons. Elles nourrissent une vie abondante sur ces rives où Jésus lui-même a vécu. La mer morte, au contraire, tout en étant abreuvée des mêmes eaux, ne les reçoit pas directement de la source, mais par l'intermédiaire du lac de Galilée. Elle ne donne nulle part ce qu'elle a reçu. Elle est située dans un creux, à un niveau si bas, à 300 mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée, que la chaleur y est carrément suffocante. Elle perd en évaporation toutes les eaux qu'elle reçoit, tout ce qui lui reste. C'est une amertume chaque année plus intense qui rend la vie impossible dans le lac et aux alentours. Tout est stérile, desséché et salin. Un oiseau qui vole par-dessus cette mer, tombe carrément asphyxié, car une seule goutte de cette eau dans votre œil est aussi cuisante qu'un acide. Apprenons ce que le doigt de Dieu a écrit dans la terre sainte. Le lac de Galilée ressemble au chrétien spirituel. Il vit près de Dieu. Il boit sans cesse à la source. Il est constamment renouvelé par un courant perpétuel de vie divine que Dieu verse au travers de lui. Le Saint-Esprit le remplit parce qu'il reste toujours et tout à la fois ouvert à Dieu et aux hommes. L'Esprit Saint créé en lui et autour de lui la vie de Christ. Le chrétien charnel ressemble à la mer morte. Il est loin de la source. Il dépend des autres chrétiens pour sa vie spirituelle au lieu de se ressourcer dans l'intimité de Dieu. Il reçoit certes l'Esprit de Dieu en abondance, mais il ne sait se maintenir dans cette abondance. Il vit à un niveau spirituel si bas que cette plénitude lui échappe au fur et à mesure qu'il la reçoit. Son âme connaît une déception, une amertume croissante année après année. Il est incapable de transmettre ou de nourrir une vie spirituelle autour de lui. Heureusement, Dieu a promis de guérir les eaux de la mer morte. Il y a de l'espoir pour le chrétien charnel, à condition qu'il laisse Dieu intervenir dans sa vie. Dieu conçoit la plénitude de l'Esprit comme étant l'état normal de tout enfant de Dieu sur la terre. Il faut ajouter, hélas, qu'ils sont nombreux sur cette terre, les chrétiens anormaux. Et toi, mon frère, ma sœur, ne va pas grossir ce nombre-là, mais bien au contraire, sois sans cesse en train d'être rempli de l'Esprit Saint et dès à présent. Où en es-tu? En es-tu au lac de Galilée ou à la mer morte? Chers amis, maintenant, il faudrait que je vous dise quelque chose de très sérieux encore au sujet de pourquoi croyons-nous au parler en langue. Oui, pourquoi? Voyons cela ensemble de plus près. Il est certain que ce signe surnaturel est la pierre de touche entre un ministère exercé dans la puissance du Saint-Esprit, selon le modèle donné par les Actes des Apôtres, et un ministère médiocre entre une vie chrétienne rayonnante et débordante et une autre qui ne suffit guère à ses propres besoins. C'est donc un signe que nous trouvons souvent dans le récit des événements de l'Église primitive, un don du Saint-Esprit pour manifester sa présence, soit dans une âme, soit dans une Église. Le parler en langue a été annoncé dans l'Ancien Testament, car nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. » Ésaïe 28, chapitre 28, verset 11. Il ne s'agit donc pas ici d'évangélisation par le moyen d'étrangers parlant leur langue, mais comme l'apôtre Paul l'expose dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 21. Là, il est question d'un signe surnaturel accordé par Dieu. Ésaïe met donc en relief le résultat du ministère de ceux qui ont reçu ce signe. Voici le lieu de repos, Ésaïe, chapitre 28, verset 12. Ainsi, au lieu de courir à l'aventure, à droite et à gauche, en se dépensant inutilement, on se repose dans la puissance de l'Esprit. C'est lui qui accomplit tout le travail. On jouit du repos parfait de l'âme dans le ministère et le témoignage, tout en procurant le repos aux autres âmes, c'est donc le repos que nous annonçons partout, repos céleste pour les esprits troublés, pour les âmes tourmentées également, hein, pour les corps qui sont là et fatigués par la souffrance. Et l'on trouve ici le soulagement de tous les maux, absolument. Puis Esaïe poursuit, mais ils n'ont pas voulu écouter. Esaïe chapitre 28, verset 12. Or ce signe semble inutile et incompréhensible. Or rien de ce qui vient de Dieu n'est inutile. C'est la clé d'une vie de repos en Dieu dès ici-bas. La parole de Dieu deviendra pour ceux qui n'ont pas voulu écouter ce que le prophète annonçait encore. Précepte sur précepte, loi sur loi, un peu ici, un peu là. Esaïe 28, verset 10. C'est-à-dire qu'au lieu de réaliser une vie chrétienne où l'on jouit de la communauté de Dieu, où c'est un plaisir de faire sa volonté parce qu'on est soutenu et fortifié par l'Esprit Saint, la vie chrétienne se bornera à essayer d'accomplir les lois de Dieu dans un esprit de servitude et non dans un esprit d'amour. La parole de Dieu est pour tous ceux, et elle est pour ceux-ci, un peu ici et un peu là. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas complètement, c'est dommage, et on manque ainsi de précieuses bénédictions. Ou encore, si l'on croit aux déclarations de la Sainte Parole, alors on limite ces dernières au temps apostolique. On dit que c'était au temps apostolique, mais plus maintenant. Et cela à l'encontre des déclarations elles-mêmes et du bon sens spirituel. Mais on ne rejette pas impunément la parole de Dieu et on ne méprise aucun de ses dons sans s'attirer une sorte de malédiction. C'est pour cette raison qu'il est écrit « afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. » Esaïe 28, verset 13. Malheureusement, on a vu et l'on voit encore le résultat d'un pareil rejet du don de Dieu par l'état misérable dans lequel se trouvent certaines églises de Dieu qui se sont opposées aux signes surnaturels provenant du baptême dans le Saint-Esprit. On veut bien recevoir l'Esprit de Dieu, mais on veut le recevoir selon ses propres conceptions et l'on refuse de se conformer au modèle que Dieu dans sa grâce nous a donné dans le livre des Actes des Apôtres, qui n'est autre que le livre des Actes du Saint-Esprit. Se parler en langue, parfois si méprisée, est l'un des signes au sujet desquels Jésus a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. » Saint Marc, chapitre 16, verset 17. Il s'agit certainement d'un miracle, car pour que Dieu puisse prendre possession de ce membre si méchant, qui souille tout le corps et qui est parfois enflammé par la géhenne, que Dieu puisse, par la langue, parler d'une telle manière de choses grandioses de sa création. Il faut donc nécessairement une action qui soit entièrement surnaturelle, me semble-t-il. C'est donc un signe qui prouve que la volonté de Dieu et la nôtre sont unies à un tel point que nous pouvons parler selon que le Saint-Esprit nous fait parler en complète harmonie avec sa pensée. Il est donc un signe pour les incroyants afin de montrer que l'Évangile est le message de Dieu prêché par le Saint-Esprit venant du ciel. Le Saint-Esprit est aussi un don donné par Dieu pour l'édification de son Église qui est destinée à lui être présentée dans la gloire, dans toute sa splendeur et sa perfection. Un chrétien me demanda un jour comment il m'était possible de savoir que Jésus était prêt à revenir. Je lui ai répondu, mais c'est parce que l'épouse est en train de se parer, de se préparer pour aller à sa rencontre. Le type se trouve dans l'Ancien Testament. Abraham est le type du Père Céleste. Isaac est celui du Seigneur Jésus, son fils. Éliézer est celui du Saint-Esprit qui est parti à la recherche d'une épouse. Et Rebecca est le type de l'Église qui va à la rencontre de son époux. Or, avant le départ, Éliézer offre plusieurs bijoux de la part de son maître. Ainsi, le Saint-Esprit fait des dons célestes aux hommes. Les dons de sagesse et de connaissance sont comme le diadème qui couronne la tête. Les dons des miracles et des guérisons sont comme des bracelets qui pendent aux mains des élus de Dieu. Le don de la foi est la ceinture d'or qui entoure le cœur et le garde en parfaite paix. Le don de discernement des esprits, il est semblable aux boucles d'oreilles gardiennes du chemin de notre esprit à l'égard des messages trompeurs des faux prophètes. Et que dirons-nous donc des dons de prophétie, des langues et d'interprétation, sinon qu'ils sont comme des colliers donnés par Dieu pour l'embellissement de son Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Nous croyons aussi au parler en langue parce que sur 3 cas des 5 mentionnés dans le livre des Actes des Apôtres où le Saint-Esprit a été donné, ceux qui l'ont reçu ont parlé en langue. Dans le chapitre, ou plutôt dans le 4e cas, beaucoup sont d'accord pour convenir que le signe reconnu par Simon le magicien, et cela est écrit aux Actes des Apôtres au chapitre 8, eh bien, et cela était le même que dans les 3 autres circonstances, c'est-à-dire c'était le parler en langue. Et d'autre part, s'il n'est pas dit que l'apôtre Paul ait reçu le signe du parler en langue lors de la réception du Saint-Esprit, lui-même déclare qu'il parle en langue plus que tous les autres, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Si l'apôtre des gentils, donc des non-juifs, n'a pas négligé ce beau don, puisqu'il a déclaré qu'il dépassait dans cet exercice les Corinthiens eux-mêmes qui parlaient en langue à l'excès, il est donc certain qu'il serait inconsidéré de notre part de négliger un tel don si estimé par l'apôtre Paul. Il est donc évident que les enfants de Dieu réunis dans la chambre haute, y compris, il y avait là Marie, la mère de Jésus, ils ont tous parlé en langue, ainsi que le déclare le récit du livre des Actes au chapitre 2. Un ministère apostolique doit faire les mêmes expériences? Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, félicite ces chrétiens de ce que le témoignage de Christ avait été, on peut dire, carrément confirmé par l'exercice dans les dons spirituels au sein de leur assemblée. Il est donc évident que la manifestation des dons a préparé les enfants de Dieu pour le retour du Seigneur. L'église d'Éphèse, la plus pure et la plus avancée spirituellement, a commencé avec le signe du parler en langue comme preuve évidente du baptême dans le Saint-Esprit, et nous avons de bonnes raisons que ces chrétiens ont poursuivi leur vie et leur ministère dans la même liberté spirituelle. Dans le chapitre 19 du livre des Actes, dans les versets 1 à 6, on est en droit de supposer que les 12 hommes qui ont reçu le baptême de l'Esprit à la suite de l'imposition des mains de Saint Paul, avec le signe initial du parler en langue, constituèrent la base de cette église d'Éphèse. Et puis plus tard, tous les membres de cette assemblée furent scellés du Saint-Esprit de la même manière, selon Éphésiens chapitre 1, verset 13. Les ministères manifestés dans l'église d'Éphèse, dont l'énumération se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, ont tous jailli du baptême de l'Esprit que Jésus avait promis. Ces ministères devraient exister jusqu'à ce que tous soient parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Or, la chose ne s'est pas encore produite. Le baptême d'en haut, avec le signe surnaturel, doit donc être mis en évidence en attendant cette unité qui ne se produira que lorsque l'Église sera réunie en la présence de son Seigneur et Sauveur. Remarquez encore que l'apôtre exhorte l'Église d'Éphèse à être remplie de l'Esprit. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Le verset 19 de ce chapitre nous montre le résultat d'une telle ivresse. Des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, ces derniers ne sont autre chose que des chants qui sont inspirés et dirigés par le Saint-Esprit, où les croyants chantent en langue, avec les langues différentes. Les mélodies est une mesure parfois très différente, mais qui donne dans tout l'ensemble, on peut dire carrément une mélodie céleste, à tel point que l'on se sent ravi au ciel. On pense généralement que le don des langues est le moindre de tous, mais la parole de Dieu n'estime pas la chose ainsi, car elle le place au nombre de tous ceux que l'on doit rechercher, entre autres. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 28. Je ne sais pas si on va arriver. Oh oui, il y a une place d'honneur avec le grand ministère de l'apôtre, de prophète, de docteur. Je répète, il y a donc une place d'honneur avec ces ministères, le ministère de l'apôtre, qui sont la prophétie et aussi être docteur de la Sainte Parole. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Nous croyons aussi au don de langue pour l'édification personnel, et oui, n'est-il pas écrit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Tous ceux qui possèdent ce don rendent témoignage à cette vérité quand, dans une langue extatique, ils glorifient leur Seigneur. Ils prononcent des mystères et il y a une telle édification personnelle qu'on ne voudrait pas laisser passer un seul jour sans que cette grâce soit accordée. Ce don possède une telle importance aux yeux de Dieu qu'il l'a inclus dans la liste des dons miraculeux et l'ordre est donné de ne pas interdire de parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 39. Bien sûr, il doit y avoir de la discipline dans une église et que si chacun commence à parler en langue, si vous êtes plus d'une centaine, eh bien, il y aura de la cacophonie. Cela ne correspond pas à une discipline qui doit subsister dans toute église. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit aussi bien que notre âme. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient faire son habitation dans le cœur et dans le corps d'un enfant de Dieu, sa présence est tellement réelle qu'il passe au travers du voile de la chair du croyant, dont le cœur déborde alors en action de grâce dans un langage inconnu de lui, mais connu de Dieu. Le don des langues est aussi un signe de, on peut dire, de condamnation pour les incroyants. Il leur permet de réaliser la présence de Dieu au sein de l'assemblée ou de l'église. Il n'est plus un Dieu lointain, mais nous avons un Dieu tout proche. Gloire à Dieu. Ce don exerce selon la discipline de la parole est donc un moyen de grande bénédiction, d'encouragement et d'édification pour le croyant ainsi que pour l'Église tout entière. Il crée en sorte un amour plus grand dans les cœurs, une obéissance plus absolue à l'Esprit et une révélation plus claire du plan et des desseins de Dieu dans son Église. Que Dieu nous accorde de sentir de plus en plus l'action de son Esprit Saint. Puissions-nous stimuler les dons spirituels qu'il a mis en nous par une vie de prière où le don des langues peut se manifester pour notre édification dans notre très sainte foi. C'est important cela. Donc, chers amis, je voudrais vous dire quelque chose, quelques remarques. Donc, comme je fais partie, hélas, du troisième âge très avancé, j'ai forcément collectionné par toutes ces années des faits de la vie d'un certain nombre de personnes que les prêtres et les pasteurs qui ont entre 30 et 35 ans n'ont pas forcément rencontré. Aussi, je ne me permettrai pas, à la fin de ma vie, de vous mentir en vous disant que j'ai été soit directement ou indirectement témoin de choses attristantes de la part de certaines personnes baptisées du Saint-Esprit. Cela me permet de vous dire en toute conscience la chose suivante. Premièrement, il est faux quand une petite minorité de chrétiens disent qu'il n'y a que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit qui iront au ciel. Deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit ne garantit nullement qu'un chrétien soit totalement à l'abri de commettre des péchés que certains athées de haute éducation ne commettrons jamais. Troisièmement, nous devons que nous soyons baptisés du Saint-Esprit ou pas. Oui, je veux dire par là que nous soyons baptisés du Saint-Esprit ou pas du tout, nous devons tous rester et demeurer humbles et surtout rester vigilants tout au long de notre vie. Car voyez-vous, personne, absolument personne, est à l'abri des attaques de l'ennemi de Dieu. Nous allons terminer maintenant par la prière. Père très saint, Jésus très saint, Esprit saint, je reconnais humblement ta présence en moi. Tu me donnes toutes les richesses de ta vie parfaite. Jour après jour, je puise dans ta bonté. Jour après jour, je vis en toi, je suis en toi et j'avance en toi. Tous les bienfaits de la force salutaire, je ne les mérite pas, car les seules bonnes choses en moi viennent de ton amour généreux. Par conséquent, éternel et très saint, en qui seul est ma vie, délivre mon corps, mon esprit, mon cœur, ma profonde conscience de toute chose qui conduit à la mort ou entrave la vie que tu donnes. Enlève toute fierté en moi et rends-moi humble. Dissipe mes envies et rends-moi généreux. Élimine toute cupidité en moi et ouvre mon esprit. Calme mon impétuosité et apporte-moi la modération dans toutes choses. Détourne-moi de la luxure et apaise mes désirs. Calme ma colère et rends-moi patient et doux. Aide-moi à vaincre ma paresse et rends mon esprit vif et enthousiaste. Aujourd'hui, pardonne-moi mes égarements. Permets-moi de recevoir dans la foi, dans le pardon et l'espoir que tu as promis par amour, fortifie-moi au service de ton royaume. Amen. Chers auditeurs et auditrices, cette prière, elle est adressée pour tout un chacun. Et vous pouvez la prier, vous, en la réécoutant et la prier à haute voix. Elle est pour chacun d'entre nous. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Que le Seigneur vous bénisse, car je sais une chose, que même si je vous aime sincèrement, le Seigneur vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. À bientôt à nouveau, soyez bénis. Au revoir, mes très chers amis.